Merci d'écouter RFI, 18h à Paris, 16h temps universel.
Le journal
en français facile.
Mathis Limano.
Jeudi 17 avril 2025, dans votre journal, c'était il y a 200 ans, la France imposait à Haïti, son ancienne colonie, le paiement d'une très lourde indemnité financière en échange de l'indépendance d'Haïti. Emmanuel Macron annonce aujourd'hui la création d'une commission d'historiens, mais continue d'écarter une réparation financière. Vous les avez peut-être vus passer sur les réseaux sociaux, ces vidéos d'influenceurs chinois qui affirme révéler les grands secrets de l'industrie du luxe. Dans ce journal en français facile, Gali Bonin nous explique en quoi c'est une contre-attaque aux droits de douane américains. Et puis au Cambodge, on commémore les 50 ans de la prise de Phnom Penh par les Khmers Rouges. Pas de geste financier, mais une commission d'historiens. L'annonce d'Emmanuel Macron était attendue aujourd'hui, en ce jour du bicentenaire de la dette d'Haïti. Il y a 200 ans, jour pour jour, la France imposait à son ancienne colonie le paiement d'une très lourde indemnité financière, une somme d'argent, en échange de l'indépendance d'Haïti. Le début d'une spirale d'endettement pour la première République noire. Aujourd'hui, le pays le plus pauvre des Amériques. Marine de la Moissonnière, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron a publié un communiqué cet après-midi.
La France a imposé une très lourde indemnité financière à son ex-colonie. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Mais pas question pour autant de verser une réparation financière. L'heure est au travail de mémoire, juge le président, qui a décidé de former un groupe, une commission d'historiens franco-haïtiens. Leur mission, étudier l'impact sur Haïti du paiement de cette dette. En 1825, en échange de la reconnaissance de son indépendance, la toute jeune République haïtienne avait dû indemniser les anciens propriétaires de terres et d'esclaves de l'argent que les Haïtiens ont dû emprunter à des banques françaises et ont continué de rembourser jusqu'en 1952. Pour beaucoup d'Haïtiens et de spécialistes, sans cette dette colossale, le pays ne serait pas dans une telle situation aujourd'hui. Mais pour la France, l'enjeu, eh bien, il dépasse le cas d'Haïti. Faire un geste financier envers ce pays, ce serait envoyer un signal aux autres anciennes colonies françaises qui réclament elles aussi des réparations.
Merci Marine de la Moissonnière. Et le débat du jour sur RFI portera sur cette dette coloniale d'Haïti. Peut-elle être remboursée? Rendez-vous à 17h30, temps universel avec Diane Berger et ses invités. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui à Paris le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'émissaire spécial Steve Witkoff pour une réunion sur la guerre en Ukraine. Alors que les Européens tentent de reprendre la main, de s'imposer dans les négociations de paix, la Russie a critiqué cette réunion. Les Européens tentent de perturber le dialogue entre la Russie et les États-Unis. Ils sont pour la poursuite de la guerre, a dénoncé Moscou. La Russie qui retire les talibans de sa liste des organisations terroristes. Décision aujourd'hui de la Cour suprême de Russie. Une mesure symbolique qui a pour but de renforcer les relations entre Moscou et Kaboul, la capitale de l'Afghanistan où les talibans sont au pouvoir depuis 2021. Il salue un développement important après cette décision de la Russie. Acheter des produits de luxe bien moins chers que leur prix de base, c'est la promesse d'influenceurs chinois sur TikTok ces derniers jours. Ils affirment que les grandes marques de luxe comme Hermès ou Louis Vuitton fabriquent en réalité leurs produits en Chine. Ces influenceurs encouragent donc les consommateurs à acheter ces produits directement auprès des fabricants chinois. Bonjour Gali Bonin.
Bonjour.
Cette vague d'influenceurs a déferlé juste après les nouvelles sur TikTok américaine contre les importations chinoises.
Oui, des sacs de qualité Hermès qui coûtent 10 fois moins cher, des chaussures de marque Louis Vuitton pour quelques dizaines d'euros. Le phénomène a eu l'effet d'une bombe sur TikTok. Tout a commencé quand des influenceurs chinois ont assuré dévoiler les secrets des grandes maisons de luxe.
Plus de 80% des sacs de luxe sont fabriqués en Chine, mais les grandes marques refusent de le reconnaître. Elles prennent des produits pratiquement terminés dans les usines chinoises, et puis elles rajoutent un logo et elles refont l'emballage en Europe. Comme ça, elles peuvent les vendre dans leur boutique avec l'étiquette « Made in Italy » ou « Made in France ».
Des accusations qui ont été rejetées par les spécialistes du secteur. Yves Anania, auteur du livre « L'Empire du Luxe », a dénoncé une vaste opération de désinformation.
C'est une vraie cabale qui demande une réaction vive, pas simplement des marques, mais probablement aussi des autorités. Les chaînes d'approvisionnement des maisons de luxe sont très rigoureuses, très canalisées, dans que quelques pays qui sont la France, l'Italie, ça reste très ancré en Europe.
Les économistes du luxe l'assurent, les géants européens de l'industrie n'ont aucune manufacture, aucun site de production en Chine.
Gali Bonin, service éco d'RFI, dans votre journal en français facile. C'est la première fois qu'une femme palestinienne remporte ce prix, le World Press Photo, décerné à Samar Abou Elouf. Isabelle Chenu, son portrait d'un jeune garçon palestinien lui a valu le premier prix.
Samar Abou Elouf est une photographe autodidacte originaire de la ville de Gaza, évacuée vers Doha en décembre 2023. C'est depuis le Qatar où sont soignés des réfugiés qu'elle va photographier le quotidien de blessés palestiniens. Parmi eux, le jeune Mahmoud, 9 ans. Une explosion lui a arraché les bras. Le World Press Photo a voulu récompenser un travail photographique mais aussi une image qui témoigne pour les générations futures et qui a donné un visage au lourd tribut payé par les enfants palestiniens. En recevant son prix, la photographe a souhaité attirer l'attention sur le sort incertain d'un de ses meilleurs amis blessé après une frappe sur une tente de journalistes à Khan Younes. Près de 200 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023, une hécatombe sans précédent mettant l'enclave palestinienne sous silence médiatique.
Isabelle Chenu, dans la bande de Gaza, l'aide humanitaire est menacée d'un effondrement total. C'est l'alerte lancée ce jeudi par un collectif d'ONG depuis la reprise de la guerre. L'aide humanitaire, les médicaments, l'eau, la nourriture ne rentrent plus dans la bande de Gaza. Le Hamas accuse d'ailleurs Israël d'utiliser la famine comme arme de guerre. Les frappes de l'armée israélienne se poursuivent. Au moins 40 personnes sont mortes aujourd'hui. D'après les secours, ces frappes visaient des tentes de déplacés. À l'écoute de RFI, 23h et presque 8 minutes à Phnom Penh. Il y a tout juste 50 ans, le Cambodge traversait l'un des chapitres les plus sombres de son histoire. Le 17 avril 1975, Phnom Penh tombe aux mains des Khmers Rouges. S'ensuit un régime de terreur. On estime aujourd'hui à 1 700 000 Cambodgiens tués lors du génocide. Alors en mémoire aux victimes. Et pour ne pas oublier, la communauté cambodgienne a inauguré à Logne, dans le département français de la Seine-et-Marne, le mémorial KH50, un lieu de recueillement et un espace de transmission, comme nous l'explique Soon Laitan, initiateur du projet.
Pour ancrer une mémoire, il est important d'avoir un lieu et une date. Nous avions une date qui correspond en fait au 17 avril et nous voulions avoir un lieu pour rendre hommage aux victimes du régime de Pol Pot. Et nous avons choisi la ville de Logne, qui est une ville qui est assez symbolique puisque c'est une ville qui rassemble une grande partie de la diaspora cambodgienne. C'est une ville qui propose aussi un écrin de mémoire qui permet d'avoir un endroit assez paisible et tranquille pour pouvoir justement se recueillir. Il était important pour nous de pouvoir transmettre une histoire à nos enfants parce que nos parents, ils s'en vont au fur et à mesure. Les fragments vont devenir des poussières de mémoire. Et il est important pour nous de pouvoir acter que ce jour-là est un jour qui va les aider à peut-être libérer la parole pour qu'ils puissent en fait raconter leur histoire pour transmettre aux futures générations. C'est le projet de ma vie, c'est le projet d'une vie, c'est le projet aussi d'une génération. On est la génération qui a cette responsabilité d'être entre celle qui détient une histoire assez tragique mais qui est aussi très inspirante du fait du parcours et qui pourrait justement permettre aux futures générations de s'en inspirer parce que eux, la future génération aura à faire face à des défis qui seront inédits et en s'inspirant peut-être de ce qu'ont fait leurs ancêtres, ils pourront peut-être les surmonter.
Sun Laitan avec Yelena Tomic, Radio France Internationale. Il est presque 18h10 à Paris, 16h10 en temps universel. Cette édition du journal en français facile se referme. Elle est à réécouter et à lire sur françaisfacile.rfi.fr. Bonne soirée sur les ondes de la Radio Mondiale.